France Culture.
L'heure du journal de la rédaction. Bonsoir Estelle Camerer.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à toutes et à tous. Femme, vie, liberté, la révolution est en cours. Devant le Panthéon à Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées en solidarité avec les manifestants iraniens. Nous serons sur place. Au Danemark, des milliers de manifestants se sont également réunis, eux, pour contester les convoitises de Donald Trump sur le Groenland. La liste s'allonge et ne semble pas s'arrêter. Donald Trump multiplie les invitations aux dirigeants pour rejoindre son conseil de la paix pour Gaza, un comité vivement contesté par Israël. Le traité entre le Mercosur et l'Union européenne a été signé au Paraguay après plus de 25 ans de négociations, et ce malgré de fortes oppositions, notamment celle de la France. Les précisions à la fin de ce journal. Les autorités doivent briser le dos des séditieux, les déclarations de l'ayatollah Ali Khamenei cet après-midi. Le guide suprême iranien a pris la parole, imputant les victimes de la répression à Donald Trump. Pour rappel, Téhéran est secoué par des manifestations depuis fin décembre. Des mouvements de protestation débutés par des commerçants défiant ouvertement la République islamique en place depuis 1979. Les autorités iraniennes les qualifient d'émeutes et accusent Israël et les États-Unis d'être à l'origine des mouvements. Si le discours d'Ali Khamenei est partagé, le reste des informations sont filtrées. Internet commence très légèrement à reprendre après avoir été coupé par les autorités. Selon une ONG basée aux États-Unis, fait état de plus de 3000 morts en près de 3 semaines de mobilisation. De son côté, le fils de l'ancien Shah d'Iran, Reza Pahlavi, s'est dit hier persuadé que le régime allait tomber en exil aux États-Unis. Il se dit prêt à rentrer en Iran. Et des rassemblements ont été organisés en France aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats et organisations iraniennes. En solidarité avec les Iraniennes et les Iraniens restés au pays, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Lyon, Nantes, Rennes, à Paris également, où l'étroite place du Panthéon était noire de monde. Près de 1000 personnes s'y sont rendues. Le reportage de Servane de Pastre.
Difficile de se frayer un chemin sur le parvis du Panthéon tellement il est rempli. Parmi les nombreuses pancartes et drapeaux qui flottent au vent, celui du syndicat solidaire et Christian, qui fait partie de la commission internationale de l'organisation, les syndicats qui ont leur place ici, car ils rappellent...
Les collectifs syndicaux qui existent sont évidemment dans le mouvement social en cours en Iran. Il y a aussi des revendications d'ordre social, économique, vu la situation de la population et notamment donc des travailleurs et des travailleuses en Iran, à côté évidemment de revendications féministes, etc., etc. On a depuis des années des informations en direct, et y compris par des camarades syndicalistes aussi exilés, sur ce qui se passe en Iran.
Un contact rendu impossible ces derniers jours avec le blocage d'Internet en Iran. Un peu plus loin, Rachel, elle représente la FSU. Si elle est là aujourd'hui, c'est pour apporter son soutien aux travailleurs en Iran, mais aussi défendre
la liberté de manifester, de s'organiser, de porter aussi une autre idée de l'organisation d'une société. Donc voilà, on est vraiment là en solidarité et on est J'espère que ça pourra un peu peser.
Car tous lancent un même appel, résumé par Benoît. Il est secrétaire général de l'Union départementale CGT de Paris.
Nous trouvons que ce qui se passe là-bas est insupportable, c'est contraire aux droits humains. Notre message s'adresse évidemment aux autorités iraniennes pour qu'ils changent radicalement de politique, et puis aussi aux autorités françaises et de l'Union européenne pour mettre en œuvre tous les moyens possibles pour exercer une pression sur ce régime iranien.
Actes économiques, diplomatiques, l'objectif, dit-il, c'est que le régime change.
Servane de Pastre. Et au Danemark, ce sont plusieurs milliers de manifestants qui se sont rassemblés à Copenhague, la capitale danoise, et d'autres villes du pays, pour dénoncer les convoitises territoriales de Donald Trump sur le Groenland. Make America go away, peut-on lire sur des pancartes, un détournement du slogan MAGA du président américain. Les précisions de Christian Chéneau.
Le Groenland n'est pas à vendre, ont scandé les manifestants brandissant des drapeaux rouges et blancs de cet immense territoire arctique. Certains portaient des pancartes avec l'inscription « Les États-Unis ont déjà assez de glace ». Plusieurs représentants politiques danois, dont la maire de Copenhague et une ministre, se sont mêlés au cortège. D'autres manifestations du même type se sont déroulées à Arthus, dans le centre du pays, à Aalborg, dans le nord, et à Odense, dans le sud. Ces protestations interviennent 3 jours après une réunion à Washington, où les autorités danoises ont constaté l'impossibilité de s'entendre dans l'immédiat avec Donald Trump sur l'avenir de ce territoire autonome. Les manifestations d'aujourd'hui veulent envoyer le message d'un pays qui refuse les projets annexionnistes de la Maison-Blanche, le Danemark, dont les chasseurs-bombardiers ont patrouillé sur la côte est du Groenland, assisté par un avion ravitailleur français dans le cadre d'un exercice militaire commun.
Et la même après-midi, des milliers de manifestants, dont le Premier ministre Jens Frederik Nielsen, se sont rassemblés dans le centre de Nuuk, la capitale du Groenland. Avec les mêmes slogans, le cortège défile jusqu'au consulat américain. De son côté, Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane de 10% pour 8 pays européens, dont la France, à partir du 1er février. Le président américain a annoncé que ces droits de douane seraient portés à 25% le 1er juin et resteraient en vigueur tant qu'un accord pour un rachat du territoire autonome danois par les États-Unis. Les États-Unis qui semblent inviter la terre entière autour de la table du Conseil de paix pour Gaza. Donald Trump a lancé des invitations au président argentin Javier Milei, au président turc Recep Tayyip Erdogan, mais aussi à leur homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. C'est un véritable flou artistique qui entoure la composition finale de ce comité voulu par le président américain. Entre les communiqués officiels de la Maison-Blanche et les annonces sur les réseaux sociaux, on ne sait plus très bien qui en fait partie. Michel Paul, à RFI, vous êtes à Jérusalem pour France Culture. On navigue à vue entre diplomatie et coup de communication et la réaction israélienne ne s'est pas faite attendre.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient d'annoncer que la composition du comité exécutif pour Gaza dévoilée par Washington n'a pas été coordonnée avec Israël et contredit sa politique, et il demande à son ministre des Affaires étrangères d'en parler avec son homologue américain. Une réaction diplomatique assez inédite. Dans un premier temps, Donald Trump dévoile une liste de 7 noms, notamment son gendre Jared Kushner, le secrétaire d'État Marco Rubio ou encore Tony Blair, le seul étranger officiel sur cette liste. Mais voilà que ces dernières heures, tout se brouille sur les réseaux sociaux. Le président argentin Javier Milei poste une photo de son invitation sur X, se disant honoré de rejoindre le club. Au même moment, Ankara annonce que le président Erdogan est lui aussi invité comme membre fondateur et que son chef de la diplomatie, Hakan Fidan, siégera au comité exécutif. Le président égyptien Sisi est lui aussi invité à ce forum. Le résultat est un attelage baroque et contradictoire. Bref, beaucoup de chefs, un général américain nommé mais sans troupes et une architecture de paix qui semble pour l'instant se construire sur les réseaux sociaux.
En Syrie, de violents combats et des bombardements dans le nord du pays. La province de Raqqa, sous autorité kurde, est visée par les forces gouvernementales qui viennent de prendre le contrôle de 2 champs pétroliers tenus par les forces kurdes. Ces dernières accusent le pouvoir syrien d'avoir trahi un accord entre les deux parties sur le retrait des forces kurdes commencé hier. Emmanuel Macron et le président du Kurdistan irakien appellent à la désescalade immédiate et les États-Unis appellent le gouvernement syrien à cesser toute action offensive entre Alep et la ville de Raqqa. Après 25 ans de négociations, le traité de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne a été signé par le président du Conseil européen, la présidente de la Commission et les dirigeants des pays du Mercosur. Ce traité, contesté en France et dans plusieurs pays de l'Union européenne, est présenté par les dirigeants du Mercosur et de l'Union à la fois comme un accord commercial et géopolitique. Les explications depuis Bruxelles de Pierre Benazet.
Un à un, tous les dirigeants présents à la longue cérémonie de signature à Asuncion ont égrené les avantages pour leur pays et pour l'Union européenne de cet accord qui va créer, selon eux, la plus grande zone de libre-échange mondiale. Mais ils ont tous insisté sur un point, le poids géopolitique de cet accord. Ils n'ont pas évoqué les États-Unis expressément, mais plusieurs ont évoqué la nécessité d'un tel accord pour lutter contre les tensions internationales. Allusion, on ne peut plus claire, aux perturbations engendrées par les droits de douane de Donald Trump. L'accord UE-Mercosur est aussi une réponse à la nouvelle offensive américaine vers l'Amérique du Sud après l'opération militaire au Venezuela. Il reste que cet accord, désormais signé plus d'un quart de siècle après le lancement des négociations, aura encore des étapes à franchir avant de pouvoir être appliqué. D'abord, le feu vert du Parlement européen. Or, la majorité n'y est pas acquise et en outre, les députés devraient saisir la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui pourrait retarder de plusieurs mois, voire de plusieurs années, l'application de l'accord. Viendra ensuite la ratification par les 27 États membres du volet politique et commercial. Et là encore, on s'attend à l'application provisoire de l'accord tant que cette ratification hypothétique n'aura pas lieu.
Un mot sur le temps pour finir. L'Hérault passe en vigilance orange inondation. Les pluies vont s'intensifier dans la soirée. Côté température, elles iront de 3 à 13 degrés. C'est la fin de ce journal réalisé par Caroline Beneteau, 18h10 sur France Culture.